Formation biblique de disciples, cours numéro 12, l'autorité du Christ, l'autorité des disciples. Première partie, l'autorité du chrétien. Trois ingrédients essentiels de l'autorité spirituelle. Petit 1, une relation personnelle avec Dieu. Élie disait, l'Éternel est vivant. Élie habitait le village de Tishbé, petit village peu important au pays frontalier de Galaad, loin de la civilisation et de la politique de la capitale. Il n'était probablement pas un homme de grande éducation, il n'était probablement ni riche ni connu, mais un fermier ou un berger, habitant une partie du pays très pauvre. Mais Dieu savait où résidait celui qu'il avait choisi. L'autorité spirituelle commence par l'appel de Dieu. Ce n'est pas du tout celui que nous aurions choisi. Mais l'appel de Dieu tombe souvent sur des hommes et des femmes qui ne sont pas candidats à nos yeux. Aurions-nous appelé Noé, Abraham ou Moïse? Trop vieux? Ou Jacob? Trop trompeur? Ou Gédéon? Trop peureux? Ou David? Trop jeune? Aurions-nous choisi Pierre? Trop impulsif? Ou Philippe? Trop lent de compréhension? Ou Thomas? Trop sceptique? Ou Judas Iscariote, trop traître. Dieu choisit souvent ce que nous n'aurions jamais choisi. L'apôtre Paul, que nous aurions considéré comme le dernier candidat à bénéficier de sa grâce, fut appelé sur le chemin de Damas. Il est devenu l'un des plus grands hommes de l'histoire et il écrivit dans 1 Corinthiens 1, verset 26 « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Alors qu'aucun chrétien ne se croit non appelé. Aux jeunes, 1 Timothée 4, verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. À ceux qui ne sont plus si jeunes, quel âge avait Moïse lorsqu'il fut appelé? Élie se savait appelé par le Dieu vivant. L'autorité spirituelle découle du Dieu vivant. Un Dieu mort ne peut déléguer aucune autorité. Élie était convaincu que l'Éternel était vivant dans un temps où ses compatriotes n'adoraient plus le Dieu vivant depuis longtemps. À l'époque du Nouveau Testament, il savait tout sur l'autorité, une autorité païenne et haïe à laquelle il devait se soumettre. Puis Jésus est venu, Matthieu 7, verset 29, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Luc 4, verset 32, en était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Même ses ennemis, les pharisiens, reconnaissaient qu'il avait de l'autorité. Matthieu 21, verset 23, Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire « Par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné cette autorité ?» Colossiens 1, versets 16 et 17 « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. » Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Colossiens 2, verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Éphésiens 1, verset 20 et 21. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. 1 Pierre 3, verset 22, « Qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis ?» Jésus a délégué de son autorité à ses disciples. Luc 9, versets 1 et 2. Jésus ayant assemblé les douze, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Mais il n'a pas délégué son autorité spirituelle seulement aux 12, il commande à chaque disciple. Marc 16, verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, car celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Le Seigneur a toujours voulu que l'homme exerce son autorité spirituelle. En Jésus, Dieu a remis à ses enfants l'autorité spirituelle qu'Adam avait cédée à Satan et qu'Israël a rejetée. Dans l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, nous voyons malheureusement une grande incompréhension quant à l'autorité spirituelle du chrétien. De fausses doctrines en découlent qui manipulent les enfants de Dieu et les poussent à se livrer à des pratiques non bibliques qui mènent bien sûr à la déception et même à l'apostasie. L'autorité spirituelle a parfois été détournée par des prédicateurs et des évangélistes mal enseignés ou carrément aveuglés. Il est possible évidemment d'être sincère et honnête tout en étant dans l'erreur. Deux formes erronées de ce qu'on appelle autorité spirituelle menacent l'Église de Dieu de notre temps. La lutte spirituelle, terme biblique, mais qui est interprété comme s'il s'agissait de violences spirituelles. On crie contre le diable, on chasse des démons de partout, on proclame la liberté aux pays, aux régions, aux villes et villages, on prophétise le réveil aux assemblées et on annonce des miracles. On fouette les émotions des croyants jusqu'à la frénésie. Mais en fin de compte, rien ne se passe, aucun changement décisif ne se produit. Le réveil promis ne se manifeste pas. Les grands hommes de Dieu sont allés entre-temps annoncer leur révélation ailleurs, laissant les pauvres chrétiens confus, se demandant où ils s'étaient trompés. L'autorité spirituelle ne consiste pas à crier contre le diable. Il y en a qui ont lu sans doute dans 1 Pierre 5, verset 8, que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera, et qui pense qu'il faut rugir contre lui. Il doit en avoir bien peur. Jésus n'a pas levé la voix contre le diable, il n'a pas essayé de le vaincre en rugissant plus fort que lui. Jésus a accompli ce qu'Ésaïe a prophétisé de lui. Matthieu 12, versets 18 à 19. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point et personne n'entendra sa voix dans les rues. Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il a vaincu Satan et toute sa puissance à la croix du calvaire. Jésus n'est pas mort en nous laissant seuls à affronter le malin. Il n'est pas mort en nous exhortant à remporter la victoire sur lui. Il l'a vaincu lui-même et il déclare maintenant que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, verset 37. Petit 2, le serviteur. Dont je suis le serviteur. Deuxième ingrédient essentiel de l'autorité spirituelle, l'attitude de service. On peut avoir beaucoup de talent pour diriger, énormément de connaissances bibliques et d'expériences spirituelles, mais si on n'a pas une attitude de serviteur, on n'aura pas d'autorité spirituelle. La deuxième forme erronée d'autorité spirituelle, c'est l'autorité humaine qui s'exerce sous un masque d'autorité spirituelle. Sous le couvert d'autorité spirituelle, ces pratiquants soumettent à leur propre autorité des milliers de chrétiens au lieu de les amener à l'obéissance à Dieu. Des pasteurs et des prédicateurs se donnent les titres d'apôtres ou de prophètes et manipulent les pauvres chrétiens par des prophéties et hautes paroles de Dieu personnel. Une telle autorité a un goût de dictature et ne porte point l'odeur de Christ. Toute autorité spirituelle est une autorité déléguée, jamais une autorité propre. Nous ne l'exerçons jamais à notre propre nom, ni au nom d'autrui, d'une église ou d'une personne quelconque, mais au nom de Jésus. Ce n'est pas une autorité pour détruire, mais pour édifier. Paul, l'un des plus grands apôtres, parle dans 2 Corinthiens 10, verset 8. Et quand même je me glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction, je ne saurais en avoir honte. 1 Timothée 2, verset 6. Qui s'est donné lui-même un rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Élie se savait serviteur. Nous rejetons d'office tous ceux qui essayent de régner spirituellement sur nous. La seule attitude d'autorité spirituelle est celle de serviteur. Marc 10, versets 43-44. Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. L'autorité spirituelle n'exige pas seulement une attitude de service. Il faut que ce service soit exclusif. Luc 16, verset 13. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Service veut dire soumission et obéissance. Élie ne faisait pas sa propre volonté, mais se soumettait toujours à la direction de Dieu. Quand Dieu lui dit « Va prévenir le roi Achab », il partit pour Samarie. Quand Dieu lui dit « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain », il partit et fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Quand Dieu lui dit « Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là », il se leva et il alla à Sarepta. Quand Dieu lui dit au verset 18, verset 1, Va, présente-toi devant Achab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol, Élie alla pour se présenter devant Achab. Obéir, c'est faire ce que Dieu nous dit de faire, inconditionnellement et sans délai. Exemple, Élie, chaque fois que le Seigneur lui disait de déménager. La soumission est parfois même plus difficile que l'obéissance, car il s'agit parfois de faire des choses qu'on préférerait ne pas devoir faire. L'autorité spirituelle se manifeste par l'obéissance et la soumission. Exemple, Jésus. Hébreux 5, versets 7 et 8. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. On mesure l'autorité spirituelle non par la force, l'intelligence ou la sagesse, mais par l'obéissance et la soumission. Exemple, dans Luc 5, verset 4, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Petit 3. Dirigé par la parole de Dieu et soumis à cette parole. Il y aura ces années-ci ni rosée ni pluie sinon à ma parole. La qualité de l'autorité spirituelle se mesure par la place donnée à la parole de Dieu dans notre vie. Un chrétien, une assemblée ne grandit pas par des miracles ni par d'autres bénédictions, mais comme tout enfant par de la bonne nourriture, la parole de Dieu. La foi ne vient pas ni ne grandit par ce qu'on voit, des miracles et des bénédictions, mais par ce qu'on entend. Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Élie ne se laissait pas influencer par la religion, la culture, la conjoncture économique, ce que diraient les autres, mais il se tenait sur la parole de Dieu, il y restait fidèle. Un pasteur, un chrétien, une assemblée exerce de l'autorité spirituelle selon son adhésion à la parole de Dieu. Le message qu'Élie a dû transmettre lui a certainement semblé étrange, mais tel était son respect pour la parole de Dieu qu'il ne s'est pas posé de questions. Il n'a pas hésité, mais il l'a annoncé tel qu'il l'avait reçu. L'autorité spirituelle se déclare par la parole. Quelle parole? La parole de Dieu. Élie croit au Dieu vivant, reçoit l'appel du Dieu vivant et obéit au Dieu vivant. Il quitte son village, va à Samarie à 3 à 4 jours de marche et entre dans le palais somptueux de marbre d'Akab avec sa prévision du temps. L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie sinon à ma parole. Est-ce que vous l'auriez cru? Qui croit à la météo? Et de plus, donnée par un homme si peu éduqué. L'autorité spirituelle n'est pas dans la parole d'Élie, mais lui, il annonce la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est toujours vêtue d'autorité spirituelle. Proverbe 30, verset 5. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. 2 Corinthiens 2, verset 17. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Luc 11, verset 28. Et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est efficace et vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Jésus disait, dans Luc 8, verset 21, mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Dans Éphésiens 6, verset 17, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Conclusion. Les trois ingrédients de base de la vraie autorité spirituelle les connaissez-vous? Savez-vous que Dieu est vivant, non pour l'avoir entendu dire, mais par expérience personnelle quotidienne? Avez-vous l'attitude de service? Vous soumettez-vous toujours à la parole de Dieu? Si oui, vous jouissez de l'autorité spirituelle. Deuxième partie, l'autorité du nom de Jésus. Petit 1, le nom de Jésus, une clé triomphante pour la victoire. Quand nous utilisons le nom de Jésus, nous parlons avec l'autorité de Jésus. Quand nous parlons dans ce nom, cela a le même effet que si Jésus était lui-même debout, parlant à la situation. Il nous a donné le droit de parler en son nom. Signe qui accompagne. La croyance au nom des signes accompagneront ceux qui croient au nom de Jésus. Marc 16, versets 15 et 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il n'y avait pas de ponctuation en grec, le langage dans lequel le Nouveau Testament fut écrit à l'origine. Les ponctuations qui sont dans nos Bibles furent ajoutées par les traducteurs selon leur propre jugement. Marc 16, verset 17 se lit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru ». Ce passage aurait pu être ainsi traduit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom ». Jésus dit qu'il est important que nous croyions en son nom. Nous devons comprendre l'autorité qui est la nôtre dans le nom de Jésus. Nous devons avec confiance libérer cette autorité dans la foi quand nous utilisons le nom de Jésus. Quand avec confiance nous citons et agissons selon notre croyance dans le nom de Jésus, nous chasserons les démons. Nous imposerons les mains aux malades et ils seront guéris. Petit 2, un droit impressionnant. Avant la fin de l'accomplissement du travail de Jésus sur la croix, personne n'aurait osé citer les noms de Dieu. Ils étaient considérés comme très saints et ne pouvaient être prononcés à haute voix. Ils étaient inscrits dans le lieu très saint et étaient connus seulement du grand prêtre. Quand Jésus donna aux croyants le droit d'utiliser son nom, c'était un très grand privilège et ce ne devrait jamais être pris à la légère. Petit 3, l'autorité de Jésus libérée. Parce que Jésus était le Fils de Dieu, il avait toute autorité dans le ciel. Parce que Jésus était le Fils de l'homme, il avait toute autorité sur la terre. Matthieu 28, verset 18, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Quand nous utilisons le nom de Jésus, une autorité irrésistible et puissante est libérée. C'est comme si nous étions à sa place et utilisions son autorité. Petit 4, procuration. Quand Jésus nous donna le droit légal d'utiliser son nom, il plaça sa plus grande confiance sous notre contrôle. En termes légaux, il nous donna une procuration pour utiliser son nom. Dans notre système judiciaire, une procuration est un document légal qui donne à une personne le droit et le privilège d'utiliser le nom d'un autre. Quand la personne qui a reçu cette instruction signe un contrat à la place de l'autre personne et attache une copie de la procuration au contrat, elle a le même effet légal que si cette personne avait signé le contrat en personne. Petit 5, recevoir de Dieu. Quand Jésus exerçait son ministère sur terre, il le faisait à la place de son Père. Jean 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit: en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Maintenant, lorsque nous exerçons le ministère sur terre, nous devons agir de la part du Fils. Nous ne devons pas utiliser le nom de Jésus pour accomplir nos propres désirs sans avoir écouté et reçu de Dieu. Petit 6. Utiliser le nom en vain. Essayer d'utiliser le nom de Jésus pour accomplir nos propres désirs sans premièrement discerner la volonté de Dieu serait utiliser son nom en vain. Dans Deutéronome 5, verset 11, Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Petit 7, le nom au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Philippiens 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, d'être égal avec Dieu. Chaque puissance de démon a un nom. Chaque personne a un nom. Chaque maladie a un nom. Chaque intrigue du diable a un nom. Quand le nom de Jésus est prononcé, la puissance du démon fuit. Quand le nom de Jésus est prononcé, le cancer et toutes les autres maladies doivent se soumettre. Quand le nom de Jésus est prononcé, les intrigues de Satan sont défaites. Le nom de Jésus est un nom au-dessus de tout autre nom. Tout genou fléchit en soumission au Seigneur Jésus quand son nom est prononcé dans la foi. Petit 8. Démons soumis au nom de Jésus. Les démons connaissent la puissance du nom de Jésus et ils sont soumis à ce nom. Luc 10, versets 17 et 18. Les 70 revinrent avec joie, disant: Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit: Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Matthieu 28, verset 18, Jésus s'étant approché leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Petit 9, croire au nom de Jésus. Nous avons le commandement de croire au nom de Jésus. 1 Jean 3, verset 23, et c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Nous devons croire au nom de Jésus pour la vie éternelle. Jean 3, verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jean 20, verset 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Nous pouvons avoir une complète assurance de notre salut parce que nous croyons en son nom. 1 Jean 5, verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Petit 10. Demandez en son nom. On nous enseigne de demander au nom de Jésus. Jean 14, versets 12 et 13. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Comme Jésus s'en allait vers le Père, il instruisit ses disciples à utiliser son nom. Il leur dit que ce qu'ils demanderont, il le fera pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Jean 16, versets 23 et 24. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. On nous enseigne de demander au nom de Jésus. Petit 11, faire en son nom. Nous devons tout faire au nom de Jésus. Quel merveilleux privilège! Colossiens 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Nous devons aussi considérer que tout ce que nous faisons doit être convenable pour être fait au nom de Jésus. De faire cela peut révolutionner notre façon de vivre. Petit 12, les apôtres utilisèrent le nom de Jésus. Les apôtres et les premiers croyants dans le livre des Actes utilisèrent le nom de Jésus avec confiance et eurent des résultats miraculeux. Puissance en son nom. Acte 3, verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé Labelle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. La foi en son nom. Pierre explique que la clé pour utiliser le nom de Jésus était de libérer l'autorité de ce nom par la foi. Acte 3, verset 12. Pierre, voyant cela, dit au peuple: Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Acte 3, verset 16. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Guérison en son nom. Comme résultat de cette guérison, Pierre et Jean furent arrêtés, emprisonnés pour la nuit et avertis par les dirigeants religieux de ne plus parler au nom de Jésus. Pierre, avec confiance, répond à leurs questions au sujet de cette guérison en disant: Acte 4, verset 10. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Salut en son nom. Pierre et Jean utilisent le nom de Jésus dans le ministère de guérison sur l'homme boiteux, et cela a comme résultat que le nombre d'hommes croyants en Jésus augmente d'environ 5 000. Acte 4, verset 4. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5 000. Petit 13. L'homme a peur de son nom. Pierre et Jean sont avertis par les dirigeants religieux désormais de ne plus parler en ce nom. Acte 4, versets 17 et 18. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Assurance en son nom. À ce moment, l'esprit d'assurance vient sur Pierre et Jean. Acte 4, versets 29 et 30. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Petit 14, Philippe prêcha son nom. Acte 8, verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Arrêtés à cause du nom. Paul fut envoyé pour arrêter ceux qui invoquaient le nom de Jésus. Acte 9, verset 14. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent son nom. Choisi pour porter son nom. Paul fut choisi par Dieu pour porter le nom de Jésus à travers le monde. Acte 9, verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Prêche sans peur le nom. Acte 9, verset 27. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas, il avait prêché franchement au nom de Jésus. Délivrance à travers le nom. Acte 16, verset 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Grand honneur pour son nom. Acte 19, versets 17 et 18. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Signes et miracles dans le nom de Jésus. Quand nous écoutons et obéissons à la voix de Dieu, nous devons avec assurance sortir avec et avec foi utiliser la grande autorité du nom de Jésus. Quand nous le ferons, nous aurons l'expérience des signes et des miracles dans notre vie et dans notre ministère. Acte 4, verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Au fur et à mesure que nous continuerons à utiliser l'autorité et la puissance du nom de Jésus, nous aussi nous ferons trembler le monde par la présence et la puissance de notre grand Dieu. La clé pour une vie chrétienne victorieuse se trouve dans le puissant nom de Jésus. Nous pouvons marcher avec la même puissance décrite dans le livre des Actes quand nous utilisons l'autorité du nom de Jésus comme les premiers croyants. Pour que la puissance de l'autorité du nom de Jésus nous soit transmise, il nous faut vivre Christ et marcher selon l'Esprit. C'est Christ en nous qui agit puissamment en son nom. Son nom est écrit sur notre front. Troisième partie. L'autorité sur toutes choses. Création, éléments, situation. Il y a un mystère dans la parole de Dieu. Ce mystère est aussi une puissance. C'est la puissance créatrice qu'a la parole de Dieu. Dieu est sa parole. Dieu est créateur et sa parole est créatrice. Genèse 1, verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ce message nous montre l'état chaotique dans lequel se trouvait la terre. Elle n'avait aucune forme et ne contenait rien du tout. Il n'y avait que les ténèbres à la surface de l'abîme. Tant Dieu se tait, tant que sa parole n'est pas proclamée, rien ne peut prendre forme et rien ne peut être rempli. Le manque de forme et le vide règnent là où il n'y a pas la parole de Dieu. Dieu sortit de son silence et commença à parler. Genèse 1, verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu entre en action par sa parole et commence à amener en existence ce qui n'existait pas. Des ténèbres qui existaient, Dieu par sa parole créa la lumière. Lors de la création, Dieu par sa parole disait ce qu'il voulait voir, séparer ce qu'il fallait séparer, appeler ou nommer ce qu'il créait, rassembler ce qu'il fallait rassembler, faisait apparaître, plaçait chaque chose à sa place. Dieu dit que la lumière soit. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Dieu fit l'étendue. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu les bénit. Lorsque la parole de Dieu descend ou est déclarée sur une situation ou sur la vie d'une personne, elle conjugue des verbes qui feront que la situation ou la vie de la personne concernée soit changée. Elle est comme un comprimé, un médicament qui se désintègre dans une situation donnée afin de donner ou de produire la chose désirée. De la même manière qu'un comprimé reste sans effet tant qu'il est dans la capsule, de la même manière, la parole de Dieu, lorsqu'elle n'est pas révélée, lorsqu'elle n'est pas crue, lorsqu'elle n'est pas déclarée ou confessée avec foi, ne produit rien du tout. Dans Genèse 1, la situation était telle que la terre était informe et vide. Il n'y avait que des ténèbres sur la surface de l'abîme. Juste après, il est dit que l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Le Saint-Esprit, la puissance de Dieu était là, mais ne pouvait rien faire tant que la parole de Dieu n'est pas déclarée. La puissance de Dieu ne peut pas agir quand nous ne voulons pas nous-mêmes du changement. Jésus-Christ, la parole de Dieu, disait « Qu'il te soit fait selon ta foi ». Nous pouvons avoir Dieu en nous et être remplis de sa puissance, mais tant que nous ne déclarons pas ce que nous voulons voir, rien ne pourra se produire, rien ne pourra changer. Les choses ont commencé à changer lorsque Dieu n'a plus voulu du désastre qu'il y avait sur terre. Dieu n'a plus voulu d'une terre sans forme. Dieu n'a pas voulu d'une terre remplie que de l'eau et des ténèbres. Dieu a commencé à déclarer ce qu'il voulait voir. Dieu a commencé à conjuguer les verbes de la création. Il faut une réaction ferme contre ce qui est pour produire ce qui n'est pas. Écoutons ce que Dieu lui-même dit à propos de sa parole. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra la myrrhe, le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Ésaïe 55, versets 10 à 13. Il compare sa parole à la pluie et la neige qui descendent des cieux. Voici les verbes conjugués. Premièrement, comme la pluie et la neige descendent des cieux. Deuxièmement, elles n'y retournent pas. Troisièmement, sans avoir arrosé. Quatrièmement, féconder la terre. Cinquièmement, fait germer les plantes. Sixièmement, sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange. La parole de Dieu ne sort pas en vain et ne retourne pas à Dieu sans effet. La parole de Dieu sort toujours avec la mission d'accomplir quelque chose dans la vie de la personne qui croit ou pour changer une circonstance ou situation bien donnée. La parole de Dieu est tout ce dont nous avons besoin pour voir les choses se créer dans nos vies et les situations changer tout autour de nous. Rien ne marche tant que la parole de Dieu n'est pas déclarée. Rien ne marche tant que la foi n'est pas enclenchée. Tout peut rester stagnant jusqu'à ce que la foi soit déclenchée. Et la foi ne peut jamais être engagée sans la parole de Dieu, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. Il y a des choses invisibles qui n'attendent que de devenir visibles dans ta vie et autour de toi. Ces choses ne peuvent devenir visibles que lorsque la parole de Dieu est déclarée, crue, mise en pratique avec foi. Le changement de ta situation ce jour, cette semaine, ce mois, cette année ne dépend ni de Dieu, ni de ton oncle au village, ni de ta ville, de ton pays ou de ton gouvernement, mais plutôt de toi-même. Nous voyons Jésus parler aux éléments naturels, comme le fait d'arrêter le vent de la tempête sur le lac de Galilée. Jésus nous a transmis cette autorité créatrice qui a toute supériorité sur les situations, sur tous les éléments de la création, sur les choses spirituelles et physiques. Ainsi, par cette autorité divine du Christ, en proclamant la parole de Dieu, en déclarant à l'existence les choses qui n'existent pas pour les créer, en parlant aux choses visibles et invisibles pour les modifier sur la terre comme au ciel, nous changerons le monde, non pas nous toutefois, mais Christ qui vit en nous par l'autorité créatrice que le Père lui a déléguée. Maintenant, il nous transmet son autorité créatrice pour que le monde soit transformé par la révélation des fils de Dieu, par l'autorité de sa parole créatrice proclamée par notre bouche par la foi. En effet, nous ferons des œuvres encore plus grandes que Jésus, parce qu'il est allé vers le Père. Fin du cours. Question sur le cours. Première question. Quelle est l'autorité dont est revêtu le chrétien? D'où vient-elle? Donnez des versets bibliques. Deuxième question. Quels sont les ingrédients de l'autorité du chrétien? Quels sont les trois ingrédients de l'autorité du chrétien? Comment reconnaissons-nous les limites du niveau d'autorité que Dieu nous a donné? Troisième question. Par quelle force le nom de Jésus change-t-il les choses? Comment Jésus nous a transmis l'autorité de son nom? Expliquez-vous par des versets bibliques. Quatrième question. Que signifie avoir de l'autorité sur les éléments de la création, sur les événements? Quel rôle joue la parole de Dieu et sa proclamation avec foi? Avons-nous un pouvoir créateur en nous? Expliquez-vous.